Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, il s'est passé quoi la semaine dernière déjà? Ouais, non, en fait, au programme. Pas mal de choses. Au programme cette semaine, forcément, exercice imposé, c'est le bilan de l'E3 qui s'est déroulé la semaine dernière à Los Angeles. Donc, plein de choses. Mais on est dans Silence on joue. Et dans Silence on joue, on parle de jeu, on parle de maintenant aussi. Et donc, on va parler de ARMS sur la Switch, on va parler de Shadow Warrior 2. Je me demande qui va nous en parler.
C'est
dingue. Mystère. Et de Ultra Street Fighter 2 qui sort aussi sur la Switch. Mais donc, le gros de cette émission sera consacré à l'E3. Autant vous dire qu'il y a pas mal de... parce qu'on garde la même durée, on ne fait pas une double émission. Et puis le reste du programme, vous connaissez Monsieur Fall, le com des coms et tout le reste. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Franz Durupt. Bonjour Franz.
Bonjour Erwan.
De Libé, il faut le dire.
Ah oui, de Libé.
De Libération. Et Patrick Héliot, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Juste avant de commencer, mais parce qu'on est très très ambitieux, on va faire une petite
Rapide. C'est relié à l'E3 en fait, c'est un chiffre que j'ai vu passer. Pendant l'E3, il y a beaucoup d'interviews qui sont données des dirigeants, et il y a notamment le directeur général France de Nintendo qui a donné des chiffres sur la Switch qu'on attendait, parce qu'on voulait un petit peu, on savait que ça s'était plutôt bien passé, mais il y a eu plusieurs interviews qui ont été données. J'en ai noté une chez Gamekult où donc la direction de Nintendo France a annoncé que 250 000 Switch avaient été vendus depuis mars. Et ensuite, dans une autre interview accordée au Nouvel Ops, l'objectif d'un million de consoles vendues d'ici mars 2018 a été donné pour la France.
Oui, gros donne... objectif à Noël.
Alors, est-ce qu'il, d'après ce que disait donc le directeur général de Nintendo France, mettrait la Switch en raccord avec les performances de la Wii à l'époque? Donc, ça donne un petit peu une idée, une notion un peu du carton de la console. Donc, on va dire que c'est bien parti. Il faut, ce que disait bien Nintendo, il faut continuer à travailler, ce qui est encore pas mal de... C'est là où la machine aborde un cap... pas forcément facile, où il faut élargir. C'est vrai que là, les joueurs sont venus sur la console. Maintenant, il faut élargir. C'est ce qui avait fait la force de la Wii à l'époque.
On va en parler dans l'émission de cet élargissement possible, probable à venir.
Et du coup, voilà, c'était un de ces chiffres qui sont sortis pendant le 3.
Ils avaient encore un peu des problèmes de production.
Oui, ça, c'est un des freins. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison, c'est vrai que c'est un des freins de la Switch. C'est qu'on la trouve très peu quand on va en magasin. Moi, à chaque fois que je parle un petit peu avec les revendeurs, ils me disent que c'est vraiment flux tendu. La machine est. On sent qu'il y a une vraie difficulté de production, ce qui est plutôt un bon problème en soi. Il vaut mieux ça que des machines qui s'entassent dans les magasins. Donc voilà, c'est bien parti. On espère que ça va continuer.
Moi, c'est juste, j'ai lu ça avant d'arriver en enregistrement, mais ça, je pense qu'on sera amené peut-être à en reparler. C'est Tencent, le géant chinois du numérique qui avait déjà racheté Supercell et qui est déjà propriétaire de Riot, de League of Legends, qui serait en négociation pour racheter Rovio. Donc les gens de Angry Birds, pour la modique somme de 3 milliards de dollars, ce qui fait peut-être réfléchir, parce qu'en fait, Rovio est un peu plus sur la pente descendante que Supercell, c'est un peu un acteur historique du jeu mobile, mais bon, après qu'il y a une licence monstrueuse, Angry Birds reste une...
Il prévoit un deuxième film Angry Birds, il me semble.
Je sais qu'ils avaient pas mal licencié à une époque, ils ont traversé plusieurs tempêtes.
Donc voilà, c'est à suivre, ils sont en discussion pour racheter. Le com des coms de la semaine dernière, on avait Goog qui dit « C'est chouette d'avoir un invité qui participe à l'émission en proposant une petite news. Suda51 a l'air d'un personnage improbable et donc très intéressant. En tout cas, j'en reviens pas du nombre de bouquins qui sortent sur le jeu vidéo. Je me laisserai tenter un jour. » Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup et c'est une spécificité française. C'est avec Third, avec Pix and Love et avec d'autres. C'est vrai que c'est en France, on a pas mal de chance à ce niveau-là. Après, il rajoute, c'est vrai, on se voit qu'il a l'habitude et que vous faites du copinage. En tout cas, moi, c'était pas. C'est pas mon cas, je ne connaissais pas Mehdi. Moi, Mehdi. Mais voilà, bon, c'est vrai que c'est un multi-podcaster, donc voilà, hein, c'est forcément il est assez proche. Et puis enfin, moi j'aime bien parce que je fais toujours des, vous savez, le truc quand vous ne jouez pas, vous faites quoi. En fait, en ce moment, je sais pas trop quoi dire, hein. Et donc je dis la moitié des choses. Et c'est en fait, il y a toujours dans les commentaires, ils rajoutent. Donc pour ma recommandation de la semaine dernière, je parlais effectivement, comme le souligne Ataraxo, de I Don't Feel At Home In This World In The More. Bah non, j'avais pas donné le titre.
En fait, c'est la recommandation participative.
Voilà, c'est ça. C'est un film Netflix, donc avec Elijah Wood, et voilà, et il y a Melanie Linsky aussi, voilà. Et lui, il trouve le film assez sympathique, mais pas super convaincant.
En tout cas, merci de nous avoir donné le titre.
Voilà, c'est ça, moi j'avais bien aimé. Mais bref, aucun rapport, on va vite se lancer dans ce qui s'est passé à l'E3, et une des premières sensations, et je pense qu'on sera amené à en parler, mais pour lancer, c'était vraiment, bah, d'ailleurs, un des premiers jeux présentés dans cette E3, vu que c'était au tout début de la conférence Electronic Arts, qui a lancé un peu les hostilités. Et c'est la prochaine production de Joseph Fares, qui est le créateur de Brothers The Tales of Two Sons, avec son nouveau studio Haze Light, c'est A Way Out. Well, you can trace. It's pitch black. We need a light. Screw it. I'll go first. Oh, crap! You okay? Do you have a problem?
Yeah, I got a problem with you.
I love you, buddy.
Vincent. What are you doing here?
She's my daughter too.
A Way Out, Joseph Fares, l'homme à l'origine de la fin de Brothers The Tales of Two Sons, parce que c'est vraiment le...
C'est pas que la fin.
Ouais, mais c'est le moment dont on se souvient, en fait, finalement. C'était un jeu très court qui était... construit autour de ce climax final.
Et puis du gameplay avec deux sticks, hein, ouais. On dirigeait les deux frères avec chacun un stick, et c'est vrai que c'était très très bien fichu. Ouais.
C'était très très bien fichu, ce qui est assez étonnant, A Way Out, on peut en parler maintenant avant de faire quelque chose de plus global sur le 3, mais ce qui est assez étonnant, c'est que dans tout cet E3, donc, qui a duré quand même toute une semaine, parce que finalement aujourd'hui, ce qu'on appelle les conférences pré-E3 sont peut-être plus importantes en termes d'annonces que
quand on est à distance, on est sur place, c'est différent, mais quand on suit à distance, les conférences, c'est capital.
On n'était pas sur place.
Mais non,
on n'était pas sur place. C'est clair. Donc ce premier jeu présenté est peut-être l'un des plus marquants. Enfin, c'est quelque chose qui reste après comme étant une des sensations dans un E3 qui n'a peut-être pas eu énormément de grosses sensations.
Surprise ou surprise.
Ouais, une des grosses surprises.
Pas surprise.
Beaucoup de choses à dire, mais je vois.
Non, mais il fait très envie, ce jeu. Voilà, ça s'explique pas. Enfin, si, ça s'explique parce qu'il y a ce phénomène de jeu multijoueur à deux, écran splitté. C'est quelque chose on sent qu'il y a une lignée clairement avec son précédent titre. Déjà visuellement il y a un cachet, on sent qu'il y a une volonté vraiment de créer un univers, et puis moi ça fait partie de ce genre carcéral dans le jeu vidéo, c'est un genre à part entière, hein. Et c'est toujours paradoxal, c'est que c'est un genre donc qui nous... où le challenge souvent c'est le principe c'est de donner une certaine liberté aux joueurs dans un univers fermé où justement c'est la privation de liberté par définition. On avait eu pas mal de jeux, enfin j'avais repris une liste, il y a The Great Escape dans les années 80 où pareil on était en prison, il fallait se libérer, mais on était libre de ces mouvements, Prisoner of War, Escapiste aussi. C'est assez paradoxal, c'est que c'est un univers fermé où finalement on va laisser une liberté d'action aux joueurs, et là on sent qu'il y a une promesse à ce niveau-là, c'est que voilà, on dirige ces deux personnages à deux, et on sent qu'il y a une vraie liberté, en tout cas il y a une promesse dans ce qu'on a vu en image de s'accaparer l'action et de pouvoir interagir à sa manière dans un univers fermé.
J'ai ressenti, à l'inverse, bizarrement, j'ai ressenti quelque chose d'ultra-narratif, en fait.
Oui, alors justement, il y a un jeu là-dessus, on le voyait dans la séquence, c'est qu'il y a un jeu même sur les caméras, avec une cinématique sur une partie de l'écran, mais qui est vue en temps réel, jouable de l'autre côté. On sent qu'il y a une volonté de jouer avec les codes des cinématiques et des mises en scène, comme s'il y avait deux caméras qui filmaient un film quasiment en même temps. Ça a l'air d'être très très ambitieux, et en tout cas ça fait envie.
Ouais, après moi je crains, enfin faudra voir, mais en tout cas je trouve que pour le moment ça a aussi un côté un peu, même dans la bande-annonce et tout, de ce qui ressort des dialogues et de la façon dont les personnages ont l'air d'être écrits, j'ai peur que ça a un côté un peu Naughty Dog, Uncharted un peu trop appuyé. Et aussi d'un point de vue
cinématique, hein.
Ouais, et aussi d'un point de vue du... Bon, moi j'ai toujours ce Uncharted 4 qui me reste en travers de la gorge avec toutes ces actions... enfin, où le jeu brillamment essaie de nous faire croire qu'on fait avancer l'histoire, etc. Sauf qu'en fait, on est vraiment. Enfin, il y a des moments où le jeu n'arrive même pas à cacher qu'il est en train de nous faire faire exactement ce qu'il a envie, notamment avec ses caisses à roulettes impossibles sur lesquelles je suis déjà énervé.
Bah, j'ai pas eu cette impression, moi, sur le. Bah, après, on verra, hein, ouais, effectivement, ouais. Il faudra juger sur pièce quand on aura le jeu en les mains, mais. Je sais pas, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une recherche de mécanique, justement, avec les deux personnages en même temps, de créer des interactions. Y a des exemples dans le trailer où on voit qu'une situation peut être abordée de différentes façons. Ouais. Moi, j'espère, en tout cas, c'est la promesse, c'est ce qu'on voit ce jeu, c'est ce trailer, c'est de pouvoir justement ne pas être sur quelque chose de très guidé, trop cinématographique, mais au contraire, pouvoir aborder une situation de différentes façons. Et le fait d'avoir deux personnages qui se rencontrent et qui interagissent, ça peut potentiellement multiplier les cas de figure, les possibilités de créer une situation. Ouais. Donc ça, en tout cas, voilà.
Une belle promesse, ouais. Ouais, et peut-être que, voilà, A Way Out, on en a parlé un peu longtemps, parce finalement, est-ce que s'il a retenu autant l'attention, parce qu'il a, quand même survécu, entre guillemets, à toutes les autres annonces qui sont revenues après, c'est que y a quelque chose de nouveau.
Ouais,
Y a un jeu avec quelque chose qu'on n'a jamais vu, enfin une promesse inédite. Est-ce que ce n'est pas forcément ce qui a manqué, ce qu'on n'a pas vu beaucoup dans cette E3? C'est ça, sachant que c'était un E3 principalement sur les jeux, parce que ce n'est pas un E3 de matériel. On va
Un petit peu avec Xbox quand même, on a un peu parlé Xbox.
Un peu rien à faire.
On est dans un E3 particulier, parce que les trois constructeurs sont dans des stades complètement différents. On a donc Sony qui est leader, très largement. Il a annoncé d'ailleurs 60 millions de consoles vendues dans le monde, donc ils sont leaders, avec une console pro. On est dans une génération 8.5, si on peut dire, génération améliorée. C'est assez nouveau comme cas de figure d'ailleurs. Ouais, on est sur une génération de consoles avec des améliorations. On a la pro qui est sortie il y a quelques mois. Là, on a donc Xbox qui enchaîne donc sur une Feu Scorpio qui est devenue donc Xbox One X. Moi, j'aimais bien Scorpio, mais bon, c'est un peu 80.
Ouais, j'aimais bien Dolphin aussi.
Ouais, mais exactement. J'aimais bien Scorpio. Mais bon, bref, c'est la Xbox One X. Et puis, on a Nintendo qui, donc, lui, surfe sur le carton, comme on parlait, du lancement de la Switch, qui a encore beaucoup de choses à prouver. Mais en tout cas, il y a une bonne dynamique, mais qui vient de sortir. C'est une nouvelle machine. Donc, ils sont tous les trois dans des cas de figure assez différents.
Chacun son agenda maintenant.
Et finalement, voilà, c'est vrai qu'on était dans un E3 où, finalement, chacun était dans un emplacement, un cas de figure différent. Et du coup, voilà, ce qui fait qu'on n'a pas eu une dynamique commune. On sentait qu'il y avait des cas de figure assez différents en termes de hardware, en tout cas.
C'était chacun dans son couloir, quoi.
Il n'y avait pas de
surenchérissement des uns par rapport aux autres.
Mais d'une manière générale, parce que c'était un E3, c'est sur. Quand même, il y a une histoire de cycle aussi de consoles. C'était un E3, donc sans grosse annonce matérielle. On se souvient que, quand même, les années précédentes, il y avait le PSVR, il y avait la Switch, il y avait pas mal d'annonces matérielles. Là, on est concentré sur les jeux. Mmh. Et en même temps, je ne sais pas, il y a une sorte d'impression post-E3 où finalement, on est quand même sur une lancée précédente. Enfin, de continuation. Mmh. Beaucoup de continuation de ce qui a déjà été fait, de validation des annonces précédentes. Beaucoup de très gros budgets quand même.
Je pense que les budgets de production sont en évolution constante. Mmh. On sent qu'il y a une prise de risque quand même limitée chez les gros éditeurs. Comme je disais, on est sur une génération 8.5, mais on est quand même sur une génération 8 qui commence à dater un petit peu. Les machines, les premières générations de cette génération 8, elles ont maintenant 3-4 ans. Donc on est sur une courbe. C'est une machine, c'est une génération arrivée à maturité, malgré ces évolutions pro ou X. On sent que les machines sont bien maîtrisées technologiquement. Enfin, on a des très belles choses en termes de réalisation, vraiment. Enfin, je trouve qu'il y a des très très beaux jeux qui s'annoncent. Maintenant, oui, on sent qu'il y a une prise de risque mesurée.
Moi, c'était assez rigolo parce qu'évidemment, quand on n'est pas à l'E3, on est face à une sorte de déferlement de vidéos.
C'est dans tous les sens, mais c'est ce qui est passionnant.
Ou d'interviews, d'entretiens, de vidéos, d'images de jeux. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de moments où j'ai cliqué sur un lien avec une impression... encore un truc de méca où on tire, encore un FPS, encore un... Même du côté des indés, j'ai envie de dire, encore un Metroidvania, encore un... Enfin, encore cette espèce de graphisme comme ça. Ouais. Où Il y avait peu de choses qui me donnaient envie finalement de continuer la vidéo. Bon, je l'ai fait par acquis de conscience très souvent, mais avec une sentiment, ah oui, on reste là-dessus en fait. Ouais.
Il y a eu peu de surprises chez Sony, il y a eu des bonnes choses, mais pas de surprises quasiment. C'est des titres qu'on connaissait, qu'on avait déjà vu venir.
La plus grosse surprise, c'est à la limite le remake de Shadow of the Colossus. Quoi.
Oui, oui.
Ce qui veut dire beaucoup déjà.
Oui, voilà, c'est sur du remake complètement. Mm-hmm. Chez Microsoft, c'était principalement quand même orienté sur la X. Hein, pour promouvoir le 4K. Ça. Moi, j'avoue que ça ne me fait pas rêver outre mesure, la 4K. J'avoue, pour l'instant, ça ne touche pas plus
que
ça.
Déjà, il faut avoir une télé 4K.
Oui. Exactement. On est sur une évolution de génération. Donc, il n'y a pas non plus le rêve d'une nouvelle génération qui arrive. C'est pas un tournant comme quand une nouvelle.
Tous les jeux doivent être quand même développés pour tourner sur la Xbox One, sur la PS4 normale. Donc, il n'y a pas. Donc, même si ces consoles sont effectivement plus puissantes,
il n'y a pas ce gap. Quand une nouvelle génération arrive, il y a un truc. On attend de nouvelles possibilités de gameplay. Là, c'est pas ça. C'est plus joli, mais il n'y a pas de. Ouais. Non, encore une fois, c'est Nintendo. Moi, je trouve que le Mario Odyssey, il a volé la vedette cette année. Je trouve que vraiment, la vidéo... Alors, moi, j'espérais la réalité virtuelle. J'espérais peut-être un casque. Bon, ça s'est pas fait. Je pense que ça va être compliqué. Et puis, bon, le Virtual Boy a laissé des traces irréparables chez Nintendo. Mais vraiment, moi, je trouve que le jeu, c'est du pur gameplay, quoi. C'est la force de Nintendo. Et ce Mario, moi, je trouve que c'est un de ces jeux qui m'ont fait vibrer pendant les conférences et les présentations. Parce que... Pareil, on sent que le jeu est bien fini déjà, même si bon, il sort en octobre, je crois, si je dis pas de bêtises.
C'est ça, ouais, 27 ans.
On sent que voilà le jeu, et puis on sent que c'est truffé de bonnes idées.
Ça a l'air d'être très très dense. Ouais.
On verra, pareil, encore une fois, attendons, on verra quand le jeu va sortir, mais j'ai l'impression que c'est un gros Mario canonique. Moi, il m'a fait pas mal penser au Mario 64 avec ses mondes ouverts, puis des idées dans tous les sens.
Il fait un peu penser aux Zelda. Breath of the Wild.
Oui, c'est vrai. Ouais,
parce qu'en fait, il a ce côté, visiblement, de. On se retrouve dans des grands univers, donc évidemment, on ne sera pas à la même échelle que dans Zelda.
Bien sûr,
mais
il faut pas.
Avec mes truffés de petits trucs, parce que visiblement, il faut récolter des lunes. Et donc, on peut les trouver parce que donc l'originalité de gameplay de ce Mario, hein, c'est qu'on découvre qu'il a une casquette qui peut prendre le contrôle d'autres personnages. Donc ça pose plein de questions sur la réalité de Mario. Est-ce que c'est la casquette qui contrôle Mario depuis le début de l'histoire de
ce personnage ? Est-ce qu'il serait possédé par une entité
Je sais pas, il y a beaucoup de théories du coup qui commencent à émerger. Mais le fait de pouvoir, avec cette casquette, prendre le contrôle de plein de personnages, du coup, ça débloque des situations. Voilà, il faisait des démos dans un désert où on peut prendre le contrôle d'un personnage de pierre possibilité d'afficher des plateformes invisibles. Les plateformes invisibles dans Mario, ça, c'est pas nouveau. Du coup, avec ce personnage, après, on peut monter sur des colonnes et puis suivre le chemin, et puis après l'abandonner en désérant sur une colonne. Mm-hmm. Voilà, il y a l'air d'y aller. Et du coup, ça peut, voilà, la possibilité de trouver des lunes et des choses ne repose plus visiblement que sur le saut, le mécanisme du saut, Donc voilà, ils ont ouvert complètement ouvert le champ des possibles en matière de gameplay et tout. Donc c'est un
ça peu, peut être une nouvelle qu'il aura pour la bécane en tout cas. Ouais.
On va revenir sur un peu les jeux peut-être qui nous ont le plus marqué durant cette E3, mais on va aussi revenir sur les jeux qui nous marquent en ce moment. Mm-hmm. Et on va passer à l'actualité quand même avec, on reste chez Nintendo, on reste sur la Switch et avec le jeu de combat ARMS. ARMS de Nintendo, on est sur du jeu de boxe avec des ressorts.
C'est ça.
Voilà.
Voilà. Donc, c'est un jeu effectivement de combat 3D vu de dos. Alors c'est intéressant, je le signale, hein, le jeu est développé par, le directeur du jeu s'appelle Kazuki Yabuki et c'est un homme qui était il est producteur et c'était le réalisateur de Mario Kart 7 et 8. Donc c'est l'équipe Mario Kart en fait qui est derrière ARMS, donc qui est une nouvelle licence. C'est Nintendo a décidé, on voit bien, ils sont assez actifs en matière de création de licences maintenant, donc avec Splatoon l'année dernière.
Après des années à vivre sur leurs acquis comme ça, et là, Splatoon, ARMS, en plus avec un aspect compétitif, ce qui n'est pas forcément
c'est un peu leur manière de rentrer dans l'e-sport. Alors, souvent, ils ont une relation particulière à l'e-sport. Hein, Philippe Lagouet, dans son interview à Gamecult, il en parlait, il disait, en gros, nous, on n'a pas envie de rentrer dans l'e-sport organisé avec des sponsors et tout, on trouve ça bien que les gens le fassent librement, enfin bref. Et donc, le principe de ce jeu, effectivement, c'est d'avoir un jeu de... Donc, il explique, Yabuki l'explique dans une interview à Eurogamer qui est très intéressante, le point de départ du jeu, c'est d'avoir un jeu de combat en 3D vu de dos, avec la question que ça pose immédiatement en matière de gameplay et de jouabilité, c'est la gestion des distances pour le joueur. Parce que dans un jeu de boxe vu de dos, on peut avoir un problème pour... vu la taille des bras et tout, on ne sait pas toujours si on va bien taper et tout. Donc, la solution qu'ils ont trouvée, c'est de faire ses bras à ressort, ses bras extensibles, ce qui fait que du coup, on peut se tenir à distance de son adversaire.
Mais les coups portent.
Et les coups portent. Et donc, du coup, ça fait un jeu qui est un peu particulier à prendre en main au départ, puisque donc la jouabilité de base, on va dire, élaborée par Nintendo, c'est une jouabilité avec les deux Joy-Con tenus à la verticale. Donc, on donne les mouvements. Donc, c'est retour du motion gaming, tranquillement aussi, sans faire trop de diffusion autour de ça et remettre le motion gaming.
Avec des sortes de gestes pour parer.
On peut faire comme ça pour parer.
Pour faire des coups avec des effets.
Pour faire des shots. Alors, c'est très réactif.
C'est un peu dubitatif, ce que je l'avais pris en main il y a quelques mois.
D'un point de vue technique, moi, je trouve ça tout à fait réussi. Voilà, on peut même mettre des effets dans les coups. On peut contourner, faire passer le point sur la gauche pour le faire revenir dans la tête et tout. Donc, je trouve que ça répond très bien. Après, moi, j'ai personnellement des difficultés pour m'accorder dans ma tête et dans mes gestes. sachant qu'il y a de l'esquive, il faut appuyer sur les boutons de tranche pour esquiver.
C'était pas en faisant comme ça, non ?
Il faut faire ça, tout. Moi, je me retrouve régulièrement, par exemple, à faire des chops sans le vouloir, parce que quand on fait les deux en avant, ça fait une chop.
Ça fait pas les doubles points ?
Non. Ça envoie les deux points, mais ça attrape l'adversaire pour le... Et du coup, c'est un jeu... en tout cas, au début, je trouve les shops sont très présentes parce que presque involontairement, on n'y fait rien. Et donc, la question, c'est, on peut passer des heures, et c'est mon cas, à essayer de déterminer quelle est la meilleure manière de jouer. Et donc, du coup, parce qu'on peut aussi jouer avec la manette contrôleur pro classique, sans reconnaissance de mouvement. Donc là, il faut faire attention, parce que moi, par exemple, si j'essaye pendant une demi-heure avec le Joy-Con et que je me dis non, finalement, je joue avec le contrôleur pro, après je le prends, et du coup, je me mets à le bouger par réflexe, alors que là, ça ne sert plus à rien. Donc, il faut faire attention. Mais
est-ce qu'il y a un intérêt autre que le multi ? Non ?
On va dire, le contenu du jeu est très pauvre en solo. Il y a un mode championnat où on enchaîne 10 matchs. Et puis sinon, il y a du versus contre l'ordinateur. Et il y a des petits modes de jeu qui sont jouables en solo, mais qui valent toujours mieux en multi. On peut faire du volley aussi. On peut faire du basket, c'est assez marrant, c'est rigolo. Mais dans tous les cas, c'est sûr que c'est un jeu qui se joue clairement en multijoueur.
Et en grattant un petit peu, tu sens qu'il y a un potentiel de tactique. Qu'il y a est-ce qu'il y a des finesses de gameplay ou est-ce que c'est juste du bourrinage
Elles apparaissent pas tout de suite. Je pense que c'est un jeu qui demande un investissement quand même. Je pense qu'il faut vraiment y passer du temps pour... Je pense que c'est un jeu qui demande d'apprendre, qu'on apprenne à le maîtriser. Effectivement, parce que de toute façon, avec les effets, sachant qu'en plus, on peut... on voit bien, ça commence à venir assez vite quand même. Quand on envoie un coup et que l'autre envoie le même coup en face, donc du coup, ça se bloque. Donc du coup, on renvoie un deuxième coup. Enfin, il y a des trucs de... On peut contrer les coups, etc. Donc je pense qu'il y a un gros potentiel. Et je pense qu'ils misent beaucoup là-dessus. Je pense qu'ils misent sur le fait qu'il va y avoir une base de joueurs qui vont commencer le jeu, etc., qui vont explorer ses potentialités. Et je pense que, à mon avis, ils ont quand même assez bien travaillé leur truc pour savoir que, je pense, les matchs vont pouvoir devenir très beaux et très techniques à un moment. C'est sûr que là, pour le moment, moi, personnellement... Je ne suis pas encore à un stade.
Le truc qui fait peur, c'est que on est dans des jeux de combat techniques parce qu'il y a énormément de combinaisons, un côté pierre papier ciseaux aussi dans les types de coups et ce genre de choses. Mais à l'écran, c'est particulièrement brouillon quand même. C'est un peu le bordel.
C'est parfois un peu compliqué. C'est parfois un peu compliqué encore que je trouve qu'au final, on apprivoise relativement vite et bien quand même l'espace et le. Et la gestion. Après, c'est vrai qu'en écran splitté, par exemple, à deux en écran splitté, c'est vrai que parfois, ça peut manquer un peu de
champ de visibilité.
C'est sûr.
Est-ce qu'on peut le comparer à Punch-Out, par exemple? Enfin, moi, je le voyais un petit peu comme un...
Bah alors, chez Nintendo, ils disent absolument pas rien à voir avec Punch-Out.
Rien à voir, d'accord. En tout cas, Parce que moi, je le voyais vraiment comme un descendant...
Bah, eux, ils disent non.
Box, non.
Ils disent non, pas du tout.
C'est pas du tout l'angle...
Non. Ils disent ça n'a rien à voir avec la boxe. Bon. C'est pas faux, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'esquive, par exemple, les esquives, c'est pas les mêmes esquives qu'à la boxe. C'est vrai que c'est pas... Bon, moi, je suis pas un habitué des jeux de boxe, hein, mais c'est sûr qu'on est presque plus dans un feeling de jeu de tir, en réalité, vu qu'on est à distance. Donc, voilà, il s'agit beaucoup de...
C'est particulièrement... Alors, ce qui est assez réussi, et même visuellement, et dans l'aspect e-sport, c'est aussi l'aspect spectateur, c'est que c'est particulièrement nerveux. Oui. Bah, c'est rapide, les parties ne s'éternisent pas, généralement, et c'est nerveux, et... On arrive, alors moi c'est assez marrant parce que j'ai regardé une sorte de mini compétition qui avait lieu à l'E3 sur le stand Nintendo, et on arrive déjà dès le départ à remarquer des performances de joueurs en fait. Un joueur qui va remonter, qui est en barre de vie presque zéro et qui va remonter, qui va réussir à gagner le combat par une série de combos, par une série de combos assez improbable. Donc du coup, moi je trouve qu'il y a un très bon potentiel en fait.
Moi je pense que c'est un jeu à gros potentiel.
Ouais. Ouais.
Mais disons que si on achète en se disant cool un jeu de combat machin, faut s'attendre à peu près à rien trouver dans les menus pour commencer et donc tout dépend de la façon dont on apprivoise le jeu et dont on s'en empare quoi.
Arms sur la Switch, et on va continuer avec les jeux vidéo du moment, mais on va quand même recevoir Monsieur Fall, parce que Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeux de société. Bonjour Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Arwan, cette semaine je vous propose de jeter des dés, mais pas n'importe quel dé. Des dés que vous aurez customisés grâce à Dice Forge. Dice Forge est un jeu signé Régis Bonnecé. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui vont durer environ 45 minutes, et c'est édité en français par Libellude. Libellude, oui, c'est Dixit. Régis Bonnecé, c'est le patron de Libellude. Ceci n'est pas son premier jeu. Régis Bonnecé est un amateur de jeux à l'allemande, avec des ressources et d'intelligence pure à l'intérieur. Donc Dice Force est un jeu de cet acabit, mais c'est à partir de 10 ans. Et il y a des dés à l'intérieur. Eh oui, donc c'est très accessible. Et ce n'est pas un jeu de pure moule, non, vous allez voir. L'idée globale lui est venue quand il s'est adonné à ses jeux sortis il y a quelques années sous la bannière Lego. Lego proposait des jeux de société avec des dés à customiser. Il a vu ça, c'était à peine exploité, voire très mal exploité par Lego. Il s'est dit, il y a un truc à faire. Et avec Dice Forge, il a fait un truc absolument extraordinaire avec un jeu avec des cartes à combo, des ressources et des dés à customiser. C'est un jeu d'intelligence pure, accessible à tous. Vous allez devoir gérer un petit plateau que vous avez devant vous, faire l'acquisition de ressources qui vont vous permettre d'acheter des cartes, qui vont vous permettre de customiser vos dés, c'est-à-dire d'élaborer une stratégie en fonction de ce qui est en train de se passer chez vous, chez les autres, pour transformer le hasard. Vous allez optimiser les phases de vos dés. Vous avez un petit clip dessus, vous retirez une phase du dé, vous en collez une autre à la place, une différente qui va transformer cette histoire de chance en hasard en un truc super cool pour vous. Dice Forge, c'est une petite merveille, tout le monde en parle actuellement, ça, c'est une sensation qu'on ne connaissait pas jusque-là, ou si peu, très peu, et Régis Bonnecé produit une petite merveille qui attire tout le monde. C'est Dice Forge, c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui durent environ 45 minutes, des tonnes de choses à faire, un renouvellement absolument incroyable, et tout ça pour 40 € prix maximum conseillé. Cette Dice Forge. Et oui, je suis en short. Ce qui ne m'empêche pas de vous dire à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv et No Life maintenant aussi, parce que Monsieur Fall est sur No Life. Voilà. C'est fou. Le reste de l'actualité. Ah bah oui, il faut en parler. Il faut en parler de ce jeu. On avait parlé du premier il y a 5 ans, quelque chose comme ça, dans Silence on joue. Vous pouvez retrouver les archives sur les internets. Et le numéro 2 est arrivé sur PC à la fin de l'année dernière. Ouais, et il vient tout juste de débarquer. Mais de quoi parle-t-on? Je parle de numéro 1, de numéro 2. On parle de Shadow Warrior 2. La subtilité.
Ah oui, non, mais
la finesse, le maître du jeu. Oui, ouais, c'est ça, hein, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, et surtout, surtout pas de violence.
Pas du tout. Alors, bah, c'est vrai qu'on parle beaucoup des dimensions parallèles ces temps-ci. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très... Non, mais c'est vrai, c'est très questionné sur les réalités scientifiques de la chose. Et bien justement, bienvenue dans une dimension parallèle où il n'y a pas eu Deus Ex, où il n'y a pas eu Bioshock, où le FPS n'est pas parti dans cette, voilà, dans cette, comment dire, cette livrée plus narrative avec des questionnements philosophiques sur le positionnement du joueur, son rapport à l'environnement. Non.
Non.
Non. On revient à 97 quand Duke Nukem, Doom, Quake étaient les, ben voilà, étaient les maîtres étalons du genre, avec Shadow Warrior 2, donc qui est une suite. Alors c'est une suite d'un reboot d'un jeu qui était sorti en 97. C'était 3D Realms qui avait sorti ça donc à l'époque. Shadow Warrior, on en avait déjà donc parlé il y a 3-4 ans lorsque le premier volet était sorti. Alors c'est complètement barré. C'est un FPS complètement décomplexé, qui m'a fait beaucoup penser, moi, à Duke Nukem, mais pas Duke Nukem Forever, hein. Il faut oublier les derniers Duke Nukem complètement ratés. On revient vraiment aux racines du premier Duke Nukem, avec un côté politiquement incorrect, avec des vannes dans tous les sens, plus ou moins réussies, hein, mais c'est pas toujours très bon goût, mais il y a des vannes partout. On pète tout le décor, il y a des interactions avec le décor en tous les sens.
Des armes blanches, et c'est quand même
alors,
le principe.
Et justement, alors exactement, c'était l'une des marques de fabrique de Shadow Warrior depuis le premier en 97 et puis sur le remake de 2013 ou 2014. C'est un mix entre l'arme blanche qui est très présente, parce qu'on incarne un ninja mercenaire, enfin bon...
Et un mélange. Il y a un scénario aussi.
Il y a un scénario, avec un personnage qui s'appelle Wang, je crois, et qui, bon, le scénario n'a aucun sens. Oui. Et tant mieux. Et alors, déjà, sur le premier, c'était déjà le cas, mais alors, sur le deuxième, c'est encore pire. Le scénario est complètement barré, mais j'ai envie de dire tant mieux. Enfin, c'est un vague prétexte. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux développeurs de complètement se déstresser avec ça et nous offrir des niveaux complètement hallucinogènes avec des. En fait, il y a un petit reliquat d'années 80 pendant tout le jeu. Enfin, en termes d'ambiance, il y a un côté assez clinquant.
Mais on est dans la lignée des Serious Sam. Enfin, voilà. C'est,
oui, il y a un peu de ça.
Surtout avec, qu'on est chez Devolver. On est
exactement. C'est publié par Devolver. Et puis, donc, on a une thématique asiatique vaguement comme ça en point de départ. Mais après, ça part dans des niveaux complètement barrés. Et là, tant mieux qu'on ait un scénario qui s'en va dans tous les sens. Parce qu'il y a des vrais moments où je me serais cru dans Far Cry Blood Dragon, ce qui est plutôt une bonne chose. Hein. Il y a des vraies ambiances années 80, clinquantes, kitsch, etc. Alors, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que je m'éclate avec ce jeu. Je m'éclate vraiment. C'est-à-dire qu'entre deux parties de Prey ou de jeux comme ça, de FPS un peu plus compliqués, qui ont plus des tendances RPG, où on avance en prenant plein les dents, et sur un jeu comme ça, ça fait du bien de se lancer dans des parties comme ça, complètement défoulantes, où on est, comme tu dis, sur du Serious Sam. Ouais, pour moi, c'est un vrai mix entre Duke Nukem et Doom, où on a, pareil, ces dizaines de monstres qui se jettent sur nous, qu'on explose dans tous les sens. Il y a un gore... carrément explicite, qui est complètement, qui se lâche complètement, c'est-à-dire qu'on est à l'arme blanche, on découpe les ennemis dans tous les sens, ça gicle. Ça, c'est... Non, vraiment, ce jeu, il a une générosité, il va jusqu'au bout dans son propos, il se lâche complètement et ça fait plaisir. On pense aussi à Doom parce qu'à un moment, donc le début, on joue beaucoup à l'arme blanche. Peu à peu, les armes les armes à feu qui sont vraiment pas terribles au début commencent à devenir plus intéressantes. On a un fusil à pompe, on a une tronçonneuse avec tout ce que ça peut amener comme effet visuel assez sanglant à l'écran. Il y a une générosité. On a pas mal de. En fait, on a le jeu se construit autour d'un hub principal avec des missions principales. On va avoir des personnages qui nous enclenchent des missions. Attention, le scénario, faut rien en attendre. Et tant mieux. On joue pas forcément pour découvrir un scénario. On n'est pas dans Prey ou dans Bioshock. On est là pour se défouler. Mais on a des missions secondaires qu'on va pouvoir activer. On a un petit système de loot qu'on fait. Enfin, voilà, c'est super complet. Et surtout, on s'éclate. Enfin, moi, ça m'a vraiment rappelé des bons moments de FPS à la Doom où vraiment, on est là.
C'est le fast FPS.
Mais complètement. Ouais. Mais plutôt joli, je trouve qu'il a. Bon, joli. Alors tout est relatif et subjectif. Attention, il faut passer ce petit côté kitsch assez prononcé. Il faut adhérer à cet univers avec un personnage où tout est complètement ringard, etc. Mais une fois qu'on passe cette barrière, vraiment, il y a une générosité dans les décors, même s'il y a quelque chose, il y a plusieurs décors qui reviennent. On a des ennemis aussi assez récurrents parce qu'on les tabasse par dizaines, par centaines. Donc il y a une récurrence des ennemis. Mais encore une fois, on s'éclate. Enfin, moi, je m'amuse vraiment que ce jeu. Il y a des petites interactions plutôt intéressantes avec les décors, des choses qui explosent. Donc il y a des effets comme ça de dominos sur des éléments explosifs du décor. Donc vraiment, on peut s'amuser. Puis il y a des boss dans tous les sens. Voilà, c'est généreux.
Voilà. Shadow Warrior 2 qui vient donc d'arriver sur Xbox One et PS4.
C'est ça, il était sorti il y a quelques temps sur PC.
Ensemblanté et les PC bien, à la fin de l'année dernière.
Ça marche plutôt bien, donc c'est une bonne chose. Donc voilà, moi je recommande pour ceux qui veulent se lâcher entre deux parties de jeu un petit peu plus évoluées en termes de narration.
Un nouveau retour d'un titre historique et d'un genre. Voilà, on revient aussi, hein, on oublie finalement les évolutions récentes et on revient aux bases. Ça vient de sortir sur Switch. C'est Ultra Street Fighter 2.
Ultra Street Fighter 2, the final challenger. Round 1, fight!
Hadouken! Shoryuken! Kumo-hu! Hadouken!
Hadouken! Ouais, je me suis foutu. Ultra Street Fighter 2, The Final Challenger. Parce qu'il faut toujours des trucs
là, oui,
après.
Alors imaginez une dimension parallèle.
Non, j'ai un titre pour Capcom. C'est
oui,
assez cool.
Il n'y a pas de prime ou de turbo cette fois. En fait, c'est un accident pour moi, ce jeu. C'est qu'à la base, je m'étais promis de ne pas y toucher. Je m'étais dit, j'en ai marre de Capcom qui nous ressort des versions prime et des Delta et des machins. Et puis, au détour d'une visite dans un magasin, une jaquette un peu à l'échange, j'ai craqué.
Ça arrive,
Street Fighter 2, parce que moi, j'ai passé des heures et des heures, si ce n'est pas des journées entières en temps de jeu à l'époque. Moi, Street Fighter 2, c'est le titre sur lequel j'ai sûrement le plus passé de temps en tant que joueur sur un jeu de baston. Il y a une vingtaine d'années maintenant, ne rajeunit pas. C'est vrai que j'avais un peu décroché des Street Fighter. Moi, je suis typique le joueur qui a beaucoup joué à Street Fighter 2 puis qui a lâché les Street Fighter parce qu'après on est passé sur les Tekken, etc., dont on a parlé il y a quelques temps, ou les Injustice quand l'occasion se présente. Et du coup, je me suis dit, banco, je réessaye parce que Street Fighter 2, j'ai des tas de souvenirs. Il y a un côté Madeleine de Proust. Pareil, moi je regrette pas du tout. J'ai investi dans le jeu et je regrette pas parce que j'y joue vraiment beaucoup depuis deux petites semaines que je l'ai. Il y a un effet Madeleine de Proust complet, c'est-à-dire qu'on se replonge complètement dans le Street Fighter 2.
Vous jouiez avec quel perso sur Street Fighter 2 à l'époque arcade.
Moi, je les ai tous faits, hein, vraiment. Allez, Chun-Li, Zangief, tous, parce que c'était le challenge. Hein, c'était aussi les plus simples, évidemment, c'est Ken Ryu. Et puis après, il fallait apprendre aussi les autres types de gameplay. Donc là, l'intérêt, c'est que donc on a une version, on a certainement la version ultime de Street Fighter 2. Qui nous permet d'avoir tous les personnages et deux petits nouveaux. On a Violent Ken et Evil Ryu qui, je crois, venaient de version alpha. En soi, ils apportent pas grand-chose. Hein. C'est plus des reskinages des personnages, quelques coups différenciants. Mais bon, c'est pas ça qui va faire acheter le jeu aux fans.
On est sur le... sur la réédition pratiquement.
On est sur une réédition, mais j'ai envie de dire une réédition propre. En fait, les bases, d'après ce que j'ai compris, reprend une version HD que j'avais pas faite à l'époque, qui était sortie sur 360 et PS3, je crois, qui était unique. C'était le HD Remix qui était sorti donc en démat uniquement, que j'avais pas fait à l'époque, et qui, je crois pas, je l'ai oublié. C'est la base de cette version. Mais alors, ce qui fait plaisir, évidemment, c'est qu'on a la version rétro. Ça, c'est bien, parce que c'est pas toujours au programme. Donc, c'est-à-dire qu'on va dans les menus, hop, on peut remettre les sons rétro et les visuels rétro. On peut faire un mix, avoir ou les nouveaux visuels et les sons rétro, ou inversé. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Ça se fait pas en temps réel pendant les matchs, on n'est pas dans un Monkey Island ou avec une touche. Mais c'est pas grave, on peut quand même choisir son mode de représentation. Donc ça, c'est bien. Il y a pas mal de modes de jeu. Il y a des modes arcade où on refait les scénarios, parce qu'il y a des scénarios dans Street Fighter. Il y a les modes entraînement. Il y a des modes un petit peu inutiles où on est deux contre un ou un contre deux avec l'ordinateur. Bon, tout ça, c'est bien, mais bon, il y a surtout du online. Moi, j'ai pas mal joué en mode online avec d'autres joueurs. Ça marche plutôt bien. Il y a quelques lags. Parfois, ça dépend en fait de la localisation de l'autre joueur, si on n'est pas loin, s'il est dans d'autres pays ou autres. Mais ça marche plutôt bien. Franchement, puis le service est gratuit en ligne pour l'instant, donc on peut pas trop critiquer.
Pour l'instant.
Franchement, ça marche plutôt bien.
Voilà la question que je me pose forcément sur un jeu comme ça, moi qui suis nul en Street Fighter, c'est par exemple si je me lance dans le online sur Street Fighter 2, est-ce que je vais pas tout de suite tomber sur des têtes?
Alors, ce qui est plutôt bien fichu, c'est que, alors justement, le mode online est plutôt bien fait, parce qu'il y a plusieurs critères. On peut choisir le niveau, avoir des joueurs à peu près du même niveau que soi. On peut justement choisir de rencontrer des joueurs avec les, je crois qu'on peut même choisir des handicaps à peu près pareils, se mettre d'accord sur des personnages qu'on choisit. C'est plutôt bien fichu, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner pas mal de choses comme ça. Bah, le mieux, c'est de passer par le solo hein, quand on débute sur un Street Fighter 2. C'est de, mais de toute façon.
Et d'avoir des amis, hein, voilà, aussi nuls que nous.
C'est mieux voilà, pour avoir une courbe d'apprentissage, mais Street Fighter 2, c'est tellement la base quand on le relance. Et là, moi, ce qui m'a plu, c'est que je me suis un peu replongé, j'ai revu un peu le HD Remix, qui était donc sorti il y a 10 ans, j'ai revu des vidéos où visiblement, il y avait eu pas mal de relookage des personnages dans les menus, etc. Là, non, on est vraiment revenu sur les looks du Super Street Fighter 2 de l'époque, du Street Fighter 2 Turbo, mais c'est celui que j'ai le plus pratiqué. On a vraiment un souci de revenir aux visuels originaux. Alors donc, on a les visuels d'époque.
On va pas s'éterniser.
Et puis on a cette version donc, remasterisée avec des visuels qui sont plutôt pas mal foutus en HD. Certains personnages passent mieux que d'autres parce que bon, bah il y a quand même un redessinage, un relookage qu'on peut aimer ou pas. Mais globalement, moi je trouve que ça le fait pas mal et encore une fois, c'est très agréable à jouer. On a aussi une galerie, un mode galerie qui est bien fichu. Et je crois que, d'après ce que j'ai compris, c'est un artbook japonais qui est complètement introuvable aujourd'hui, qui est complètement scanné. On peut zoomer. Il y a des très beaux visuels dedans. Par contre, il y a une blague dans cette réédition Street Fighter 2. C'est un mode en motion gaming. Ça ne marche pas du tout. C'est le mode ado où il faut prendre les. Ça marche pas. Il faut oublier.
On peut pas faire des adoken comme ça.
Ah si, mais ça marche pas.
Enfin, c'est
vraiment une plaisanterie. Et puis il manque aussi les passages où on cassait les voitures, tout ça.
Ah bon ?
Moi, je les ai pas vus. Donc, ils y sont pas.
Ah oui, non, ça c'est...
J'aimais bien. Je ne les ai pas trouvés, en tout cas.
Ah oui, non, je suis contre.
Mais bon, vraiment, moi, j'ai beaucoup joué, hein, mine de rien. Une heure tous les soirs, comme ça, de temps en temps, en arcade, en online, ça marche bien. Et
allez, on va revenir. Voilà. On va revenir
en 2017, retour en 2017.
En 2017, à l'E3. Et l'E3 est aussi fait pour faire rêver les joueurs, pour les faire espérer, pour les faire les projeter peut-être un peu loin dans l'avenir, hein, pas forcément à une réalité de jeu qui va sortir dans les mois qui viennent, mais à un jeu qui va arriver lointainement. Je pense que vous savez de quel jeu je veux parler, parce que c'est vrai que cette bande-annonce, voilà, qui va nous parler d'un jeu lointain, parce qu'on voilà, il est au tout début.
Pas daté, je crois.
Mais la bande-annonce a fait sensation. C'est bien sûr Beyond Good and Evil 2. Alors c'est marrant, avec maintenant c'est vrai que ça devient rare, hein, les présentations avec une cinématique, en fait, tout le monde à l'E3 fait, il y a la petite annotation, cette présentation tourne avec le moteur du jeu, in-game, machin, version en développement. Là, pas du tout. Là, on est sûr de la pure cinématique. C'est pas d'ailleurs pas la première avec ce titre-là.
En fait. C'est plus une présentation d'univers.
Ça pose l'univers.
Complètement. Ouais.
Et c'est BGE2.
Et c'est, bah, moi, je trouve que c'est une belle revanche parce qu'on sait que BGE1 avait été un très beau succès critique, mais qu'il n'avait pas fonctionné en termes de vente.
Ah ouais, on a été 12 ans.
Et on était tous, voilà, tout le monde était dégoûté parce que c'était un très beau jeu et qui n'a pas eu le carton commercial qu'il aurait dû avoir. Ça fait plaisir de voir que BGE2, bah, aujourd'hui, crée l'événement sur l'E3. Je trouve que c'est une belle revanche de voir que Ansel, qui arrive sur scène et qui déploie comme ça cette cinématique, avec cette promesse d'un univers. C'est vrai qu'il y a un côté flamboyant dans ce qu'on a vu.
C'est un côté un peu molineux, quoi. Ce que je veux dire, c'est dans le sens... C'est cette promesse, c'est l'éternel retour de la promesse du jeu où il y aura tout... Tout va être gigantesque, on pourra tout faire, l'histoire va être démente, on va pouvoir... Parce que donc, ce qu'ils expliquent quand même, hein, c'est qu'on va pouvoir explorer une galaxie. Ils ne promettent pas autant de planètes que dans No Man's Sky, forcément, mais quand même une galaxie. Visiblement, ils ont commencé à modéliser de plusieurs planètes. C'est vrai que le développement est à peu près au niveau zéro, hein, pour le moment, c'est ce qu'ils disent. Ils ont présenté des démos techniques en porte-close à l'E3.
C'est pas pour tout de suite du tout.
D'avoir impressionné les journalistes qui les ont vus, mais bon... Mais par contre, ils disent une galaxie à explorer... mais avec un scénario qui va nous mener, machin, et donc ils disent, ça va faire un peu comme un guide de voyage, un voyage Oui, une visite guidée, un voyage.
Un peu comme le premier. Le premier, il y avait déjà une sensation de monde ouvert à l'époque, alors que bon, on était aux prémices vraiment de ce, ce genre.
Le truc qui peut quand même faire espérer, c'est le premier. C'est le premier qui était
sûr,
2003. 2003, hein, quand même, ça fait un sacré paquet de temps.
Bientôt,
Et c'était ultra novateur. C'était, on était, enfin.
Bah, en termes de narration et puis de, ouais, de monde semi-ouvert, enfin d'ampleur d'un monde créé. Et puis là,
oui,
bah,
puis
c'est
de multiplicité
de...
du gameplay. Il y avait des courses de véhicules, il y avait de l'infiltration,
puis
il y avait du combat,
il y avait pas mal.
Il y avait les animaux à prendre en photo. On était en 2003.
C'était
un truc complètement précurseur qui n'a pas marché pour sans doute plein de raisons. Et voilà, mais quand on le voit aujourd'hui, quand on voit tout ce qu'il proposait, il y avait déjà ça. Il y avait ce côté, en 2003, on vous propose un espèce de jeu ultime avec, où il y a tout. Et finalement, pour...
Et tout était de bonne qualité, en plus.
Et le tout était de bonne qualité.
Le jeu n'avait pas de points faibles.
Et il y avait un scénario, et il y avait des prises de... Pas des prises de risque, mais des partis pris vraiment narratifs très très forts, ne serait-ce que d'avoir une héroïne non violente.
Si on projette ça 15 ans après, on part sur un projet pharaonique, très ouvert. Donc voilà, si la promesse est tenue et que la hype qui se dessine aujourd'hui sur ce BGE2 est là, il n'y a pas de raison qu'on se retrouve dans la situation de déception de vente du premier. Ça devrait fonctionner. Après, il faut voir le jeu, parce que pour l'instant, c'est vrai que ça reste une promesse. Tout comme on a eu chez Nintendo, le Metroid Prime 4, pareil. Bon, là, on a eu qu'un logo. C'est vrai qu'il y a eu des annonces comme ça sur cette E3 où... Ouais, il faut attendre maintenant. Il faut encore attendre un salon.
Ça m'a fait rire de voir certains joueurs un peu râler, genre « Ouais, mais pourquoi vous vous excitez? C'est qu'une cinématique.
»
En même temps, j'ai l'impression que ça fait partie de l'ADN du jeu vidéo aussi de faire un peu comme ça, de faire rêver.
Oui, c'est un univers. C'est aussi un univers. C'est montrer aussi une ambition.
C'est concrètement juste une annonce en bonne et due forme que le jeu existe, que c'est un projet sérieux.
C'est
vrai qu'ils avaient déjà présenté il y a quelques années une démo où on voyait Jade pour le coup qui courait dans les rues, etc. machin. Mais bon, là, visiblement, le truc a l'air d'être vraiment sur les rails pour de bon. On travaille depuis plusieurs années.
Il y a un programme, je crois, de tests. Enfin, il y a des choses qui sont lancées. Ça bouge, donc c'est plutôt bien. Puis c'est vrai que ça a raflé la vedette sur le 3. Ouais. C'est vrai que la conf du 8 était réussie parce qu'il y a eu pas mal d'événements comme ça.
Allez, on va pas faire du chronologique. Hein. On va pas refaire toutes les confs alors moi, je sais pas si c'est un problème que j'ai moi avec les conférences d'Ubisoft, mais j'ai trouvé que celle-là a été particulièrement réussie. Il y a quand même plusieurs propositions qui sont.
Il y a Moto qui est
venu.
L'entrée en matière était forte.
Il y a quand même le coup le tour de force, lapin crétin Mario, qui est quand même le jeu dont tout le monde se moquait il y a deux semaines,
qui
d'être quand même très réussi. Déjà visuellement, je trouve qu'il est très joli je trouve qu'il y a vraiment une bonne touche graphique dedans et tout. Et ça a l'air quand même assez marrant à jouer, ce tactico.
C'est pas souvent que Nintendo confie son Mario à un autre éditeur.
On se doute de la difficulté de travailler sur un personnage pareil. Que ça doit être,
Peut-être pour ça que Davide Soliani pleurait quand
Miyamoto a dit,
le directeur créatif du jeu, qui était en larmes, quand Miyamoto a dit que c'était du bon travail, c'était peut-être parce qu'il a
peut-être
subi une pression d'enfer.
En même temps, Miyamoto qui dit que t'as bien travaillé, je pense que ça
tu mets dans ton CV après. C'est clair.
Donc
ouais,
c'est
et puis moi je voulais quand même parler. Il y a ce type quoi. Il va y avoir du ski alpin, hein.
Oui, ça franchement, c'est pas forcément que j'ai.
Non, mais attends, depuis le temps, on n'a plus de ski alpin dans le jeu vidéo. Non, mais c'est vrai, on n'en parle pas assez.
Oui, ça c'est ce que t'as retenu.
Voilà. Non, mais après c'est vrai que des grosses annonces. Il y a le Far Cry 5 qui a confirmé. Hein. Skull and Bones, qui pour ceux qui ont aimé le.
Pense à Black Flag.
Qui ont beaucoup aimé cette vision d'Assassin's Creed et les combats de pirates, c'était cool. Moi, il y a cette espèce de truc hyper bizarre de transférence
en VR.
Avec Elijah Wood.
C'est bien qu'Ubi lâche pas la VR, parce que la VR, c'était quand même une déception globalement sur le salon E3 en général. C'est vrai qu'il y a eu très peu de soutien. Moi, j'ai noté, donc, Ubi continue à développer des jeux. Il y a Bethesda qui s'est beaucoup investi. Ouais. Ils ont annoncé un Doom VR, justement, j'en parlais il y a quelques temps. Ils le font. Et ça me fait envie, vraiment. J'ai envie d'essayer. Donc,
c'est vrai?
Si, ouais, vraiment.
T'as vraiment envie?
Mais on le voyait dans la vidéo, en fait, c'est un système de projection, a priori. On se projette.
Ça,
moi, j'y
crois. Un peu à la Dishonored, hein?
Tac. Et ça, mais en fait, Bethesda, ils commencent vraiment. Ils se sont bien fait la main sur la VR. Ils ont du Fallout, ils ont du Skyrim qui arrive dessus. on sent qu'eux, ils tiennent la VR. Et à part eux, bon, bah, c'est vrai que c'était plutôt calme. Chez Sony, il y a eu quelques annonces, il y a eu quelques jeux bon, qui avaient l'air plutôt sympathiques, mais déception, moi, je trouve, en VR. Je trouve que c'était un peu calme. Microsoft qui nous sort une bécane visiblement super puissante.
Et une nouvelle Porsche. Parce que du coup, là, quand même, le truc qui était un peu ridicule dans cette histoire, c'est qu'ils nous vendent la console, la Xbox One X, plus puissante que tout.
Ils sortaient de la VR.
Quel meilleur jeu pour la présenter qu'un nouveau Forza?
Oui, c'est ça.
Là. Voilà. Avec une Porsche dévoilée en exclusivité pendant la conférence. On se dit,
alors que tu dois pouvoir faire des choses.
On est complètement dans la caricature, déjà. Hein, c'est...
En réalité virtuelle, là, si la bécane en a autant sous le capot, on doit pouvoir faire des choses hallucinantes. Bon, ça sera peut-être plus tard, on verra. Je pense que les annonces se font, il n'y a pas que le 3 non plus, peut-être qu'il y aura d'autres. On verra. Et c'est un peu décevant, je trouve que la VR était un peu en sommeil, en dehors de Sony, Bethesda.
Oui, pour le coup, oui.
Bon.
qu'est-ce qu'il y avait dans les conférences? On a parlé de Way Out chez Electronic Arts, hein, qui avait lancé la chose. Pas grand-chose d'autre. Anthem,
qui est joli quand même, vraiment. À part après Mass Effect, qui nous a
un peu du mal à y croire quand même.
Ouais, un peu du mal à y croire. Du Destiny par BioWare. Enfin, c'est bon. Bref.
Ça avait quand même la démo qu'ils ont présentée. Avait quand même. C'était l'archétype de la démo. De la démo 3, où le jeu à la fin.
Ça ne ressemblera pas forcément à ça.
Pas du tout.
Chez Xbox, on va refaire rapidement pour rien oublier, mais chez Xbox, il y a eu quoi? Il y a eu Métro, mais bon. Voilà,
Métro, Métro, déjà vu
aussi.
Ah ouais, mais bien là, Métro, mais oui, mais... moi j'aime beaucoup Métro. Et là, le nouveau.
Ça, c'est typiquement le genre de vidéo, je lançais, ok, un FPS, ultra post-apocalyptique.
Mais surtout, oui. Mais je suis d'accord, on est sur une nouvelle machine, on a envie d'avoir des nouvelles choses. Bon, bah, Métro, on connaît. Maintenant, moi, il m'a fait envie, vraiment. Moi, j'aime beaucoup la série, et là, il a un côté plus monde ouvert.
Mais oui, mais d'accord.
Il m'a fait penser un peu à Stalker. Il y a un côté Stalker qui. Pour moi, ça peut vraiment envoyer.
J'en doute pas une seule seconde. C'est juste à un moment, t'es. Enfin, surtout, mais c'est peut-être, il y a un côté overdose de l'E3 où ça fatigue. L'espèce de pour moi, qui est un fail, alors bon, c'est pas une méga licence, mais Crackdown 3, ça a été un naufrage absolu.
Un jeu Nintendo 64 sympa, là aussi, Super Lucky Tale.
on est d'accord que c'est pas ça qui va.
Player Unknown's Battleground qui arrive sur console, et ça je sais pas si on se rend compte encore aujourd'hui de ce que ça va être, mais c'est tellement un phénomène qui a conquis le PC en 3 mois. Je pense qu'il faudra qu'on en parle. Il faudra qu'on invite un spécialiste, des spécialistes de PUB, parce que c'est un jeu qui me fascine, pas vraiment en tant que joueur, mais
phénomène.
Mais quand même, phénomène, c'est assez fascinant. Forza, j'arrive pas. J'arrive pas à comprendre comment. Mais ça, c'est rien à voir.
Mais c'est un genre de jeu.
Comment on présente la puissance d'une machine avec des jeux de voitures? Les jeux de voitures ont toujours été beaux.
Parce que c'est une démo techno. En termes de réalisation.
Mais pas du tout.
Les jeux
de voitures étaient déjà réalistes sur PlayStation 2, pratiquement.
Ouais, c'est là où tu peux. Oui, comme tu dis, il y a déjà des effets de météo, des choses comme ça.
Mais oui, mais
c'est. Il y aura plus de gouttes.
Mais c'est pas ça qui va me la vendre, moi, personnellement. Je suis d'accord, moi non plus. Mais par contre, il y a la rétro. Quoi, être trop compatibilité Xbox d'origine. C'est bien parce que Microsoft fait un très bon boulot sur la 360, sur la rétro-compatibilité. Ouais. On n'en parle pas beaucoup, mais ils font du boulot sans le mettre trop en avant. Et je trouve qu'ils font un vrai travail de fond sur la 360. Il y a régulièrement des nouveaux jeux rétro qui sont rendus rétro. On se replonge avec des jeux, ça marche vraiment bien et c'est peu mis en avant et c'est une chose bien qu'ils font. Et là, du coup, l'ouverture à la Xbox 1, c'est très bien parce qu'il y a des jeux comme KOTOR, etc. Ça, c'est bien s'ils sont rendus compatibles avec la One.
KOTOR.
Et eux, ils le font, ça, et gratos. Ils le font gratuitement et ça, c'est vraiment bien.
Ouais, il y a Wolfenstein 2, ça pareil, voilà. Non mais ça a l'air
bien. Ouais,
c'est surtout une grosse cinématique pour poser l'ambiance.
Ouais,
après,
il était jouable, je crois.
Je crois que les retours que j'ai vus étaient plutôt...
Petit épisode standalone pour Dishonored 2, Death of the Outsider.
À la rentrée, assez vite d'ailleurs, ça va assez vite.
Assez vite.
Et Evil Within, 2, que j'attends de voir, parce que j'ai bien aimé le premier, donc beaucoup de suites, mais bon...
De la conférence Ubisoft, et il y a quand même ce Assassin's Creed, on en parle aussi parce que c'est une première fois depuis longtemps qu'il y a eu une année sans Assassin's Creed, c'est presque un reboot de la série à ce niveau-là, Origins, en Égypte, c'est bon. On a, ouais. C'est le genre ouais, de truc.
Il y a deux choses qui me font envie. Bah, c'est l'Égypte, parce que bah, l'Égypte.
Parce, hein, que l'Égypte, parce que l'Égypte, parce que les pyramides. Hein,
et puis bah, le fait que c'est l'équipe de Black Flag qui ouais. travaille dessus. Et moi je, c'est vraiment un de mes titres favoris de la série.
Jean Guédon ouais. à la tête. Et
ouais, ouais. Donc j'ai tendance à leur faire confiance sur.
J'ai regardé la démo de gameplay, 25 minutes là. Je me suis dit, ça avait l'air. Bon, déjà, visiblement, le personnage continue de grimper sur les murs sans qu'on lui ait demandé, alors qu'on veut le faire passer par une fenêtre, déjà. Et,
mais c'est et pas grave aussi, franchement, arrête de juger.
Je me dis,
ça.
Après Zelda, c'est quand même compliqué. Il y a un moment, il grimpe sur une montagne, très bien. Et après, moi, j'arrive en haut d'une montagne dans un jeu. Maintenant, j'ai tout de suite envie de sortir une toile et de descendre. Et là, il fallait qu'il descende. Étage par étage la montagne ouais. Et je me suis dit franchement moi je pense que la manette me tombe des mains au bout de 3 minutes si je la retrouve dans cette situation. Ah
ouais, il faut un delta. Alors, est-ce qu'ils avaient des delta planes en Égypte ancienne? C'est ça le problème.
J'en sais rien mais en tout cas dans le nom.
La conférence PlayStation qui normalement, alors moi je me rappelle peut-être les 2-3 derniers E3 à chaque fois c'était non mais Sony a sommé le machin.
Ouais là c'est un oui.
Voilà. Non, il y a Days Gone, ouais, qui sorte envie, de remix ouais. entre The Last of Us et
ouais,
puis.
Ça sent pas la grosse originalité quand même dans ce jeu.
Non, mais propre. Enfin, c'est ouais, pas original, bien fait dans son genre, mais ouais. y a un, je pense qu'il peut faire son effet.
Bizarrement. En fait, je sais pas pourquoi, mais c'est des trucs à la fin d'une vidéo, c'est tu ressens si t'as envie d'y jouer ou pas, si tu vas avoir envie de.
Celui-là, j'ai envie d'y jouer.
Et en fait, c'est. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que. C'est peut-être parce que tirer sur les zombies. Semble complètement inutile. Et ça me plaît en fait, une espèce de retournement du truc, c'est-à-dire que oui, c'est un jeu de zombies, mais ça sert à rien de tirer dessus, ils sont trop nombreux, ils sont trop. Ou la horde est la menace extérieure. Où il faut faire avec, mais finalement le reste.
Oui, même s'en servir, il y a un passage voilà. où ils abattent un grillage pour, ouais. pour faire venir les zombies.
En fait, la horde de zombies devient un élément de l'environnement, et c'est ouais. là où finalement c'est peut-être le truc hein. le plus proche
sur les flux
The Walking Dead, enfin de cette réflexion de la place de l'être humain dans un monde post-apocalyptique façon zombie. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Après, voilà, c'est peut-être.
C'est pas pour tout de suite, je crois, c'est 2018. Enfin, il y a beaucoup de jeux qui sont sur l'année prochaine. Hein, qui sont
et Spider-Man quand même. Parce que pour depuis.
Oui, alors Spider-Man était assez. C'est marrant. Alors là, pour le coup, ça a l'air d'être vraiment niveau combat, infiltration, une réussite totale des Batman.
Oh ah oui,
avec des tonnes de QTE.
Mais ça marche bien.
À la fin. Et même en même temps, le jeu, je trouve, un gros charme visuel.
Il est beau, ouais, il est beau.
Il est très, très beau. J'aime beaucoup, Spider-Man. C'est très coloré. C'est très,
Et je pensais qu'il sortirait autour du film, mais pas du tout, en fait. C'est 2018 aussi, ouais. je crois, hein, donc c'est pas pour tout de suite.
Je regardais, mais bon, on arrivait, vu qu'on a déjà fait Nintendo, c'est vrai qu'on on arrive à faire le tour, mais il faut qu'on parle quand même de trois quoi. Ouais.
Et de Rocket League sur Switch.
Et de Rocket League sur Switch.
Ah,
alors,
oui, ça, c'est...
on parle de Rocket League ou de Détroit c'est...
Comme vous voulez.
Non, Rocket League, c'est la vite. Hein, c'est pour dire que Rocket League sortira sur Switch et que c'est un rêve qui se réalise pour moi déjà. Je pense que c'est une très bonne annonce parce que c'est typiquement un jeu. Je pense que la Switch a typiquement besoin de ce genre de jeu. Ouais. C'est un jeu qui aurait pu être conçu par Nintendo déjà à la base dans son principe. Hein. Et je pense que la Switch a vraiment besoin de ce genre de jeu qui sont vraiment des jeux où les gens consacrent des centaines d'heures à ça, ont envie d'y jouer tout le temps.
Ah, mais typiquement sur ce. On sent qu'ils consolident vraiment leur line-up. Hein. C'est flagrant entre le Mario, ce titre-là qui est très stratégique. Ouais. Et qui va être cross-platform. C'était une des tendances aussi. On a vu ça sur le 3. Donc il y a Minecraft où on va avoir des joueurs, donc Xbox One, Steam et Switch qui vont se retrouver. A priori, PlayStation n'est pas encore entré dans le jeu. Ils veulent pas pour l'instant. Peut-être qu'il y a des négociations, on verra bien. Mais c'est bien. Enfin, je trouve que c'est bien ce genre de concept de jeu où les joueurs de différentes obédiences matérielles vont se retrouver. Je trouve que c'est une bonne chose. Ça rend ces jeux universels et encore une fois, ça amène une dynamique sur des titres comme ça où on va rencontrer des joueurs, on va créer des choses dans Minecraft et les partager entre différentes machines. Je trouve que c'est bien.
Ouais. Voilà, pour finir, bah, peut-être quelques mots sur Detroit Become Human, donc le troisième E3 quand même d'affilée sur le même titre. Et c'est pas, il y en aura peut-être un quatrième, probablement un quatrième.
Il n'y a pas de date pour l'instant.
Il n'y a pas de date. Detroit Become Human. Voilà, moi plus ça avance, plus je reste. Ça me crispe un peu en fait.
Moi je suis toujours impatient de mettre la main dessus.
Ouais,
je suis toujours impatient d'essayer.
Moi le problème, alors bizarrement, un des trucs quand même réussissé à m'intéresser, à me rendre très curieux chez les jeux Quantic Dream. C'était les univers, c'était les propositions. Et là, plus ça avance, plus celui-là me semble déjà vu, en fait, un espèce de planète des singes meets Blade Runner, en fait. Enfin, un espèce de mix entre planète des singes et Blade Runner, avec du Wreckers Wild autour, façon l'intelligence artificielle va tous nous... Je sais pas, je commence à être très très dubitatif. Autant l'année dernière, il y avait des choses que j'avais trouvées intéressantes dans les images proposées. Cette année, je sais pas. Non, encore une fois, on est sur la pure supposition. Est-ce que vous avez vu autre chose sur qu'est-ce que c'est vrai qu'on a fait le tour, mais
je pense qu'on peut signaler le retour de Metroid en 2D aussi sur 3DS.
Oui,
un épisode qui a l'air très sympa. J'ai pas bien compris si c'est un remake du Metroid 2
de Game Boy, ouais. C'est une reprise.
Pas bien compris, mais en tout cas, il a l'air bien cool.
Les amiibo qui ont l'air pas mal du tout. Il y a plein d'amiibo qui arrivent.
Il faut signaler aussi pour l'avenir commercial de la Switch l'importance de l'annonce du Pokémon RPG.
Ce qu'on comprend. Moi j'aime bien parce qu'on est dans le pur E3, c'est-à-dire genre la phrase.
La phrase.
Pas une image, pas une vidéo.
C'est important parce qu'ils disent core RPG Pokémon, donc ça veut dire. La série va continuer sur Switch, donc ça veut dire.
Ça va basculer quoi.
Ça va basculer, donc ça fait de la Switch définitivement.
Ça confirme, on le savait, c'est un secret de Polichinelle, mais c'est confirmé, c'est acté. Et c'est vrai que c'est, encore une fois, ça contribue à... Voilà. Mais c'est normal, enfin, Nintendo, il est en lancement de sa console, contrairement aux deux autres constructeurs qui sont plus sur un élargissement de leurs audiences. Là, Nintendo, il est en train vraiment d'essayer de faire grossir le buzz sur sa console. Hein.
On a vu des premières images, des premières grosses scènes de gameplay de Vampire, de Dontnod, qui a l'air plutôt cool.
Bah, le sujet est...
À propos de Dontnod, il y a le Life is Strange, préquel de Life is Strange qui a été annoncé pour août, trois épisodes, qui sont développés par un autre studio américain qui avait développé des Cool Borders, notamment. C'est le nom de Idle Minds, un truc comme ça, et donc préquel qui se passe 3 ans avant.
Avec Chloé et l'autre personnage qui avait disparu dans
Rachel Amber.
Et Rachel, voilà. C'est
donc
ça.
L'actrice qui jouait Chloé dans Life is Strange, donc là c'est impliqué dans l'écriture de son personnage et tout. Donc visiblement il n'y a pas du tout d'antenode à l'écriture. Ouais. J'imagine qu'ils doivent un peu peut-être garder quand même. Voilà.
Il y a les premières images qui sont sorties et on reste dans cette ambiance adolescente, un peu.
Alors, faudra voir comment ils font, puisque là, du coup, il n'y aura pas de pouvoir de remonter dans le temps, a priori.
Oui, ça, on va être moins dans le fantastique, a priori. C'était un espèce de bilan un peu fouillis, mais on a fait un peu le point sur ce qu'on a retenu de cette E3 à Los Angeles. Il y avait 12 minutes aussi de Luis Antonio qui a bossé sur la partie artistique de The Witness. Ce sera lointain, on aura l'occasion d'en reparler.
Beaucoup de choses lointaines sur cette E3. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projections 2018, voire plus loin.
C'est quand même un modèle des villes 2025.
Oui, ça, je pense qu'on n'a pas.
Ouais. C'est ça.
Il y a beaucoup de perspectives à long terme cette année.
C'est le but, hein. Oui, on le sait.
Non,
c'est
particulièrement
cool. On a fini avec les jeux vidéo et la question rituelle, chers amis. Quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Franz?
Mais moi, peu de choses en ce moment. Je vais dire que je suis en train de lire Doctor Sleep de Stephen King. J'aime bien Stephen King. Je connais. J'ai pas encore lu beaucoup de Stephen King, donc du coup, je les prends un peu comme ça vient, quoi. Donc là, j'ai pris celui-ci, qui est plutôt. C'est la suite de Shining. Hein. Voilà, le même personnage qui est alcoolique 20 ans après Shining. Visiblement, il y a une histoire de secte ou je ne sais quoi, donc j'ai peur que ce soit un peu saoulant, ça. On va voir. Pour le moment, en tout cas, de suivre le personnage de Daniel Torrance 20 ans après Shining, c'est déjà bien intéressant en soi.
Patrick.
Alors, moi, je suis allé au cinéma, je suis allé voir La Momie.
Momie. C'est gênant, là.
C'est compliqué. C'est très compliqué parce que. ça va pas le faire, en fait. Non, parce que.
Sens que tu rêves d'être pas trop méchant, c'est ça?
Non, mais c'est dommage parce que le problème, c'est qu'Universal a quasiment créé le film d'horreur, on va dire, moderne dans les années 30 avec les Dracula, avec la momie, avec l'homme invisible, etc. Une lignée de films qui ont été fondateurs, qui ont été vraiment très importants. Et le groupe lance ce qu'il appelle le Dark Universe. C'est une sorte de reboot un petit peu de toutes ces créatures, etc. Là, il commence avec La Momie, mais ça va pas le faire, en fait. Ça va pas le faire du tout, parce que
c'est du bruit, du brouhaha pendant deux heures dans tous les sens. Il y a Tom Cruise qui... mais bon, Tom Cruise, je comprends pas pourquoi il a été casté dans le rôle du héros. Le problème de la momie, c'est que le personnage principal de la momie doit être la momie, pour moi. Et là, malheureusement, bah, c'est Tom Cruise qui accapare tout, comme d'habitude, l'écran. Remettez la momie avec Karloff. Je sais que c'est un film en noir et blanc qui date un petit peu, mais remettez, ne serait-ce que la scène où il apparaît pour la première fois en momie, où un personnage perd la tête devant lui, se met à crier. Il y a une terreur. Enfin, Boris Karloff, dans ce rôle, il est incroyable. Et bon, voilà. Donc, le Dark Universe, donc, je crois qu'il y a eu le Dracula Untold qui était sorti il y a quelques années, pareil, qui... C'est pas gagné. Je crois qu'il y a Johnny Depp qui est sur un projet. Il y a un Frankenstein qui arrive.
Oui, il faut un remake de La fiancée de Frankenstein. Bill Condon.
Mais c'est pareil, La fiancée de Frankenstein, c'est un chef-d'œuvre absolu. Ouais,
c'est vraiment
C'est un film auquel... Mais là cette momie... le film, moi, c'était presque un passe-temps un peu coupable. Et c'est la fin qui est... La fin, elle est... Waouh, c'est pas possible, quoi.
D'accord.
Donc, c'est le Dark Universe, bon courage. Hein.
Ouais, moi, je vais passer... J'aurais pu parler d'un livre pour enfants à base de poires géantes, mais comme d'habitude, je me rappelle pas du titre. Donc, je prépare, mais non, mais j'arrive pas à préparer. Non, c'est l'histoire de dans une île, le maire a disparu sur l'île mystérieuse où poussent des poires géantes. Et c'est très bien. Voilà. Okay. c'est un livre pour enfants, hein, si vous voulez enquêter là-dessus. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci à tous les deux.
Ah, merci.
Et
merci.
Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur nos lives, sur Libération et sur les internets. Ciao.